Aujourd'hui, donc, nous commençons pour ce deuxième semestre Ancien Testament niveau 1, un parcours dans le Pentateuque qui va nous occuper jusqu'au mois de juin. Alors d'abord, le mot Pentateuque, nous le savons tous, provient de la réunion de deux mots, pente qui signifie 5, et tokos qui désigne à l'origine une boîte, un étui dans lequel on met un rouleau, et puis évidemment par métonymie il a fini par désigner le rouleau lui-même. Donc vous savez que dans la tradition juive on parle des 5 rouleaux, les 5 rouleaux pour désigner ce Pentateuque. Les rouleaux de la loi, de la Torah, bon, qui sont les 5 premiers livres de la Bible juive, donc de l'Ancien Testament de l'Église chrétienne. C'est la première partie, donc ces cinq rouleaux, ces 5 premiers livres, c'est la première partie de ce qui est appelé le Tanakh, Torah, Nébihim, Ketubim. Ça, nous l'avions vu donc dans la formation du canon de l'Ancien Testament. Nous avions vu que la Torah, qui est au sens strict constituée de ces 5 premiers livres, qu'on appelle le Pentateuque, est suivie des prophètes et des autres écrits. Les prophètes, c'est les Nébihim, et les autres écrits, ce sont les Ketubim. Bon. Ce mot même de Torah, qui est désigné en Deutéronome 32-46, je cite, « Et quand Moïse eut fini d'écrire entièrement les paroles de cette Torah dans un livre, ce mot même de Torah a une grande importance parce que il signifie quelque chose, on va voir ce que c'est. Il signifie quelque chose que Moïse ordonne de prescrire au fils d'Israël. Dieu ordonne, pardon, pas Moïse. Dieu ordonne de prescrire au fils d'Israël et de mettre en pratique, les paroles de cette Torah. C'est ça le verset 32, le chapitre 32, verset 46 de Deutéronome. Pardon, j'ai fait une erreur dans la citation précédente, c'est Deutéronome 31, 24. Vous rectifierez. Alors, qu'est-ce que signifie ce mot de Torah. À vrai dire, nous le traduisons par loi, mais la terminologie de loi rend compte très très imparfaitement de manière très insuffisante de ce que recouvre le terme de Torah. C'est un terme qui vient d'une racine, yara, qui a un sens vraiment polysémique, comme d'ailleurs beaucoup de noms hébreux. Il signifie à la fois jeter, montrer, indiquer, lancer. Et parmi ces indications, il y a bien sûr... Parmi cette pluralité de significations, il y a bien sûr une qui est très importante, c'est l'idée d'indication d'une direction à prendre, d'une voie à suivre, d'être guidé par un enseignement, Lorsque l'on utilise cette terminologie, on est plus exactement dans la signification de ce mot Torah. Voyez. Donc on peut dire que c'est un enseignement, que c'est une direction qui est donnée par Dieu lui-même pour suivre la voie, parce que la Torah est une voie, et c'est une voie, pas n'importe laquelle, c'est une voie de la vie. Et donc, bien sûr, de ce fait, la Torah renferme un certain nombre de prescriptions qui indiquent la conduite à suivre pour aller vers Dieu, c'est-à-dire pour marcher dans cette voie et pour faire sien l'enseignement qu'elle contient. Alors à ce sujet-là, d'ailleurs, il y a un professeur de l'Université de Strasbourg au XXe siècle, qui s'appelle André Néer, qui a beaucoup écrit sur l'essence de la prophétie, qui a écrit un livre également sur Moïse, et qui nous dit ceci, s'agissant de ce mot Torah, ce terme de loi, dit-il, est par lui-même insuffisant pour marquer la plénitude du mot hébreu Torah, que l'on n'a pas pu réduire à une loi, que l'on a pu réduire à une loi que par le canal du terme grec nomos. Nomos, c'est la loi en grec. Qui le traduit dans la Septante, donc, et ce n'est pas l'ordre, mais l'orientation, pas la loi, mais la voie sur laquelle est possible un cheminement en commun. Voilà ce que dit André Néer. Personnellement, je ne suis pas du tout sûr que le terme de nomos qui est employé dans la Septante se réduise à une interprétation de la loi au sens strict, au sens d'un catalogue, d'un corpus législatif. Mais néanmoins, la remarque que fait André Néer n'en perd pas sa pertinence pour autant. Parce qu'il est exact que, usuellement, nous considérons la Torah comme une loi, en laissant de côté le fait qu'elle est enseignement, qu'elle est direction donnée par Dieu lui-même, et qu'elle est une voie pour aller vers lui. C'est une voie, V-O-I-E, bien sûr, mais c'est aussi une voie, V-O-X, parce que c'est une parole. Pourquoi c'est une parole? Parce que c'est Dieu qui parle à l'homme. C'est Dieu qui donne cette Torah, c'est Dieu qui donne cette loi. C'est Dieu qui se révèle à l'homme par sa parole, par laquelle, d'ailleurs, nous le savons, il a tout créé. Donc on peut dire que, bien que nous ayons cette Torah, cette loi dans le Pentateuque, nous sommes en face de quelque chose qui est vivant, d'une réalité qui est vivante, qui est une parole de Dieu, donc qui est une réalité vivante, bien sûr qui est enfermée dans la matérialité d'un livre, mais c'est d'abord une parole vivante et non un livre à jamais fermé. Un livre qui serait l'exposé d'un ensemble de codes, d'un corpus juridique, de règles éthiques, qui bien sûr sont présentes. Mais cela ne se réduit pas à cela. C'est un ensemble, dans la tradition juive, c'est un ensemble vivant qui comporte une loi écrite et une loi orale. Parce que cette même tradition nous dit que la loi écrite et la loi orale ont été révélées par Dieu à Moïse. Les deux ont été révélées par Dieu à Moïse. Et beaucoup plus tard, en écho, Saint Basile, le grand archevêque de Césarée de Cappadoce, nous dira à propos de la tradition qu'elle est une, mais qu'elle a deux versants. Un versant écrit, c'est l'Écriture sainte, et un versant oral. Pourquoi ? Parce que cette tradition, c'est une réalité vivante qui part du Christ, qui est transmise par les apôtres et qui vit dans l'Église tout au long des générations. Tradition vivante qui se transmet tout au long des siècles, et donc tradition qui, bien sûr, a son versant écrit, mais qui est, lequel versant écrit est aussi inséparable de l'interprétation. Vous voyez ? Les deux ne sont pas séparables comme tels. Et bien sûr, la tradition orale, eh bien, elle ne peut jamais rentrer en contradiction avec l'écriture qui en est en quelque sorte la norme. Donc c'est une parole vivante, une parole de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu ? Ou plutôt, plus exactement, qui est la parole de Dieu ? C'est son verbe divin. Parole de Dieu qui, selon une admirable pédagogie, a longuement préparé ceux qui avaient le cœur ouvert pour recevoir la parole de ce Verbe, et qui, donc, dans la longue histoire du peuple qu'il s'était choisi, a d'abord donné la loi, puis les prophètes, puis s'est fait semblable à nous, a pris notre nature humaine, et en venant parmi nous, il était l'accomplissement de cette loi et de ses prophètes, l'accomplissement de tout le dessein de Dieu en faveur des hommes. Donc c'est une parole vivante, qui s'adresse non seulement à ceux du passé, mais à nous aujourd'hui, comme à ceux qui nous suivront, et jusqu'à la consommation des siècles. Alors, quels sont donc les livres de ce Pentateuque ? Prenons-les dans l'ordre, nous connaissons leurs noms. Le livre de la Genèse, Genesis, donc, le livre des commencements, le livre de l'origine, qui est le livre de la création du monde, le livre des différentes générations, depuis Adam jusqu'à Jacob, donc le livre de ces générations d'hommes, le livre de l'élection d'Israël, l'histoire de Jacob. Donc ça, c'est le premier livre. Le second, c'est l'Exode. Exodos, c'est la sortie. Donc, il fait référence, évidemment, à la sortie de l'esclavage d'Égypte, la sortie de l'Égypte, qui est le lieu de l'esclavage du peuple hébreu, le récit de la libération de cet esclavage, la traversée du désert et l'arrivée à la terre promise. Le livre du Lévitique, alors le livre du Lévitique, lui, contient différentes règles, différents rites qui s'appliquent au sacrifice, aux purifications, à la distinction du pur et de l'impur, et c'est évidemment plus spécifiquement le livre des prêtres et des lévites. Ensuite, nous avons le livre des nombres, qui est le livre des générations des tribus d'Israël, des grandes familles de ce peuple élu. Et le cinquième livre, c'est le livre du Deutéronome. Donc, Deutéronomos, c'est littéralement la deuxième loi. Et c'est un livre qui est un livre de récapitulation, qui est en quelque sorte une seconde promulgation de la loi qui a été déjà donnée, mais qui n'est pas une répétition pure et simple, hein, comme nous le verrons. Alors, nous connaissons évidemment ces cinq livres du Deutéronome sous ces noms, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Mais dans l'hébreu, vous devez savoir que ces livres ne portent pas ces titres. Pourquoi ? Parce qu'ils sont désignés par leur premier mot, Bereshit, donc dans le principe, au commencement. Bereshit, dans Bereshit, il y a Rosh, la tête en tête, auquel correspond le arché grec. Shemot, voici les noms des fils d'Israël pour le deuxième livre. Waïkra, et il appela pour le troisième. Bamidbar, le Seigneur parla, plus loin à Moïse dans le désert. Et Debarim, pour le cinquième. Voici les paroles. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut savoir, et quand, comme je l'espère, vous entrerez dans la lecture même du texte en hébreu, eh bien, vous verrez dans la nomination de ces textes, ils sont désignés par ces premiers mots. Ce Pentateuque, il faut le dire, est nécessaire à étudier, c'est même fondamental de l'étudier, parce que il est en quelque sorte comme la base de tous les livres de la Première Alliance. Et évidemment, son étude est bénéfique pour l'étude même du Nouveau Testament. Bon, nous savons que l'intelligence du Nouveau Testament signifie aussi l'intelligence de l'Ancien Testament, et donc en particulier de ces cinq premiers livres de la Première Alliance. On peut dire que l'ensemble de cette Bible hébraïque, de ce que nous appelons l'Ancien Testament, ne se comprend pas sans le Pentateuque, de la même manière que les Épîtres que nous trouvons dans le Nouveau Testament ne se comprennent pas sans les quatre Évangiles. Donc, livre de la Torah, livre de la loi donné par Moïse, comme le dit saint Jean. La loi fut donnée par Moïse. La loi est de Dieu, mais elle fut donnée par Moïse. La loi a pour à Dieu pour auteur. Les dix paroles même, les dix paroles, ont été écrites du doigt même de Dieu, comme le rapporte l'Écriture. On considérait que ces livres ont pour auteur Moïse, on parle traditionnellement des cinq livres de Moïse, à plusieurs reprises dans l'Écriture, sans dire formellement qu'il en est l'auteur, et on sait qu'il y a eu discussion là-dessus, je ne vais pas y entrer en détail. Mais on fait référence aux cinq livres de Moïse, comme par exemple dans le livre d'Esdras au chapitre 6, dans le deuxième livre des Paralipomènes, c'est-à-dire le deuxième livre des Chroniques, pour les Bibles françaises qui quasiment toutes traduisent sur le texte de l'hébreu massorétique, au chapitre 25, dans le livre de Néhémie, au chapitre 8. Bon, il est dit par exemple, « Ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait prescrite à Israël. » Bon, il y a d'autres références, mais on ne va pas toutes les citer. C'est sur ces cinq livres de Moïse, donc de la Torah, que les rabbins de la synagogue ont établi, je le rappelle pour mémoire, leur liste des 613 commandements. Alors, le corpus législatif qui est exposé dans ces cinq livres du Deutéronome, on peut le diviser en trois grandes collections. Le code de l'Alliance, le code de la sainteté, le code deutéronomique, lui-même subdivisé en trois sous-parties. Alors, le code de l'Alliance, eh bien, il s'ouvre sur les dix paroles, donc au livre de l'Exode. Ce code de l'Alliance, on peut l'identifier entre le chapitre 20, les chapitres 20 à 23 du livre de l'Exode. Il commence avec les dix paroles. On préfère finalement cette appellation à une autre appellation qui nous est familière de dix commandements. On lui préférera celui des dix paroles. Il s'ouvre sur les dix paroles et il se conclut par quelque chose qui est très important, qui est la conclusion de l'Alliance, donc l'aspersion du sang et le repas sacré qui est pris sur la montagne par Moïse et les anciens d'Israël. Ça nous dit quelque chose. Le code des lois de sainteté. Donc, on le trouve dans le livre du Lévitique. Cet ensemble va du chapitre 17 au chapitre 26. Et il commence par l'appel à la sainteté comme Dieu est saint. Il nous donne une série de dispositions législatives, des lois relatives aux prêtres, des données sur les fêtes d'Israël, la manière de les célébrer, des dispositions, ça aussi c'est très important, des dispositions relatives au sanctuaire, le sanctuaire étant le lieu où on accomplit les sacrifices, c'est le temple, hein. Le rappel, dans la dernière partie, le rappel de l'Alliance et un certain nombre d'énoncés de bénédictions et de malédictions qui s'attachent à l'observance ou à la transgression de la loi divine. Le troisième corpus, donc, c'est le code deutérocanonique, qui, comme son nom l'indique, se trouve dans le cinquième livre, le Deutéronome. Et ce corpus va du chapitre 12 au chapitre 26. Et comme je l'ai indiqué, c'est un code de loi qui se divise lui-même en trois sous-parties, avec trois thèmes. Premièrement, c'est l'affirmation, donc ça va du chapitre 12 au chapitre 16, 12 verset 12, chapitre 16 verset 17 pour être plus précis. C'est le thème de l'unicité de Dieu. L'injonction à ne suivre que l'unique Seigneur, car le Dieu d'Israël est unique. C'est le thème également de l'unique sanctuaire pour les offrandes sacrificielles offertes au Dieu d'Israël. L'unique sanctuaire. Et parce que le temple de Jérusalem, en particulier, le temple est l'unique sanctuaire, le centre même du culte d'Israël. Le deuxième thème, ce sont les institutions, donc d'Israël, qui va... Donc ce deuxième ensemble va du chapitre 16, verset 18, au chapitre 18, verset 22. Et là, nous avons un certain nombre d'énoncés qui concernent les juges, les procédures judiciaires, les prescriptions pour le roi, les lévites, et leurs droits. Et là, le troisième sous-ensemble, qui va du chapitre 19 au chapitre 26, eh bien là, ce sont un ensemble de prescriptions quant au code de l'Alliance, qui se conclut par l'engagement de la fidélité d'Israël à la loi divine. Donc voilà, ce sont là les trois codes qui composent l'ensemble du corpus législatif. Mais ce qu'il faut remarquer aussi, et ça c'est très important, c'est vraiment très important, c'est que, à côté de cet ensemble législatif, il y a des récits. Autrement dit, la Torah n'est pas simplement, ne contient pas simplement ces codes législatifs, mais elle contient des récits. Le premier récit, ben, il commence avec la création du monde pour aller jusque à la mort, pour aller plus tard jusqu'à la mort de Moïse. Et ces récits, justement, ils jouent un grand rôle, en particulier liturgique, un rôle d'anamnèse. Et nous le trouvons exprimé tout à fait majestueusement dans les récits qui ponctuent le repas du Seder, le repas pascal, la célébration du repas pascal. Il y a un exégète qui s'appelle Thomas Römer qui dit Je cite, « La loi est fondée sur une histoire et l'histoire conduit à la réponse prescrite par la loi. » Très intéressant, cette remarque. « La loi est fondée sur une histoire et l'histoire conduit à la réponse prescrite par la loi. » Et on peut trouver une illustration de ce propos, donc de l'articulation entre le récit, la loi, et la loi et le récit, dans une citation du sixième chapitre du Deutéronome. Justement, ce chapitre appartient... Ce texte que je vais citer, donc les versets 20-24, il appartient à un chapitre qui énonce les lois et coutumes que le Seigneur a enseignées à Israël. Et Dieu demande à Israël de mettre en pratique ces lois et ces coutumes, de mettre cet enseignement en pratique. C'est dans ce chapitre d'ailleurs qu'il y a le fameux « Écoute Israël »,« Shema Israël ». Le Seigneur, notre Dieu, est le Seigneur un. Bon, on sait que c'est un verset très important, qui fait partie d'ailleurs de la prière juive trois fois par jour, et qui exprime le début de la foi traditionnelle d'Israël. Et qui commence, je vous le fais remarquer, par ce mot ô combien évocateur de Shema, écoute, écoute. Et en écho, on pourrait citer ce que dira plus tard Paul, qui dit que la foi naît de l'écoute. La foi naît de l'écoute. Dieu parle, Dieu me parle, Dieu nous parle. Et si le Saint-Esprit a préparé notre cœur à écouter cette parole, eh bien, je l'écoute et je la reçois. Et j'atteste que cette parole est parole de vie, et j'atteste que cette parole est vérité. Donc tout commence par l'écoute, effectivement. Alors je cite verset 20-24 du sixième chapitre du Deutéronome. « Et demain, quand ton fils te demandera, pourquoi ces exigences, ces lois et coutumes que le Seigneur notre Dieu vous a prescrites ? Alors tu diras à ton fils, nous étions esclaves du Pharaon en Égypte, mais d'une main forte le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte. Le Seigneur a fait sous nos yeux de grands signes et de grands prodiges pour le malheur de l'Égypte, du Pharaon et de toute sa maison. Et nous, il nous a fait sortir de là-bas pour nous faire entrer dans le pays qu'il a promis par serment à nos pères et pour nous le donner. Le Seigneur nous a ordonné de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre le Seigneur notre Dieu, pour que nous soyons heureux tous les jours et qu'il nous garde vivants comme nous le sommes aujourd'hui. » Au passage, je ferai une remarque suite à une conférence que j'avais entendue, un propos extrêmement intéressant que j'avais entendu de la bouche de Sandrine Canéry, qui démontrait que la croyance en la résurrection n'était pas quelque chose de tardif dans l'ancien Israël. Et là, vous voyez, pour que nous soyons tous les jours, nous soyons heureux tous les jours et qu'il nous garde vivants comme nous le sommes aujourd'hui. Et Sandrine Canéry faisait appel, en utilisant l'exégèse rabbinique, à cette parole où Dieu dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et il ne dit pas « J'étais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Il dit « Je suis. » Ce qui montre bien que la foi dans la résurrection est dans la Torah. Ce n'est pas une croyance plus tardive. Alors, le livre de la Genèse se présente à nous comme le livre qui nous introduit au Pentateuque. C'est l'entrée dans le Pentateuque. Le prélude à quoi? Eh bien, le prélude à la naissance d'Israël comme peuple du Dieu unique. Pardonnez-moi. Naissance d'Israël comme peuple du Dieu unique. Sous la conduite de Moïse, telle qu'elle est racontée dans les livres suivants, et cette Genèse qui raconte l'histoire du monde depuis son commencement, jusqu'à la vocation d'Abraham, l'histoire des patriarches Abraham, Isaac et Jacob, et jusqu'à la mort de Jacob, donc en Égypte. Et donc là, nous avons, après le récit qui est en quelque sorte le préambule, le récit de la création, la narration d'une suite de générations. La génération du ciel et de la terre, la génération d'Adam et de Seth, la génération de Noé et de ses enfants, la génération du père d'Abraham, celle d'Ismaël, d'Isaac et celle de Jacob et de sa suite. Voilà. Donc, nous avons une suite de récits où sont concernés des générations. Donc à la fois générations qui marquent des commencements. Notons tout de suite qu'il y a entre les livres du Pentateuque une suite. Pourquoi ? Si la Genèse est en quelque sorte le préambule, l'Exode en est la suite, reprend immédiatement après la mort de Jacob. La mort de Jacob qui est le dernier verset du livre de la Genèse. Et il s'ouvre sur une génération des fils de Jacob. Et il en est ainsi des trois livres qui suivent la Genèse, Exode, Lévitique et Nombre, qui nous font connaître de manière continue justement cette histoire de la constitution d'Israël comme peuple que Dieu se choisit. Comme peuple que Dieu se choisit sous la conduite de Moïse. Mais aussi, bien sûr, la loi que Dieu donne à son peuple. Tout cela, donc, il y a une cohérence interne dans ce Pentateuque. Le cinquième livre, en quelque sorte, fait écho au premier, puisqu'il est une récapitulation. Une seconde annonce, une seconde promulgation de la loi qui a été révélée, qui a été donnée par Moïse au peuple, de la part de Dieu. seconde promulgation qui complète, qui explicite cette loi au moyen de trois discours de Moïse. Loi que Dieu donne à Israël, loi par laquelle il se lie à lui en une alliance. Une alliance donc qui n'est pas contrairement à n'importe quelle alliance diplomatique, un pacte égal entre deux parties contractantes, mais une alliance qui a Dieu pour auteur, et dans laquelle il invite le peuple qu'il se choisit à y entrer. Mais c'est Dieu qui est l'origine de cette alliance. Autrement dit, la Genèse prépare à l'Exode, au Lévitique et au Nombre, et le Deutéronome récapitule les quatre écrits précédents. Il faut d'ailleurs remarquer, c'est très intéressant justement, et ça vient attester en quelque sorte ce balancement entre Genèse et Deutéronome, donc le premier qui est l'entrée dans la Torah, et le dernier qui en est l'explicitation et la récapitulation, c'est que ces deux textes, entre ces deux textes, il y a un parallélisme à établir. Justement, nous trouvons à la fin de ces deux textes une bénédiction qui est prononcée sur les tribus d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Avec par exemple en Genèse 49 la bénédiction des 12 fils de Jacob, et en Deutéronome 33 la bénédiction par Moïse des 12 tribus d'Israël. Donc, je le redis encore une fois, c'est un parallélisme intéressant, vu la position que chacun de ces deux livres occupe dans les cinq rouleaux de la Torah. Alors, pour en revenir à la Genèse, Bereshit hébreu, nous voyons qu'il y a plusieurs sections, plus ou moins longues, qui divisent ce livre. Et nous remarquons d'entrée de jeu, bien sûr, hein, c'est pas difficile, il suffit de le lire, que ce livre de la Genèse a comme un prologue qui est constitué par le récit de la création. C'est le récit qui figure en tête, Bereshit, en tête, au commencement, dans le principe, et qui a de ce fait le statut de prologue, non seulement pour le Pentateuque, mais également pour tout l'Ancien Testament. Et nous remarquons que, à ce prologue, fait écho un autre prologue, celui de Saint Jean, parce que l'évangile de Saint Jean est l'évangile de la nouvelle Genèse. Quelques notations sur ces différentes sections qui s'ouvrent toujours par des mots comme voici les générations ou voici la famille d'un tel ou un tel, qui indique donc une nouvelle partie du livre, puisque la Genèse se présente également comme un vaste tableau généalogique auquel correspondent des récits des événements. Le plan du livre, pour pouvoir nous repérer, il y a d'abord un récit de la création, chapitres 1 et 2, un récit de la création du monde au chapitre 1 et de la création de l'homme mâle et femelle, un récit de la création de l'homme placé dans le jardin des délices, dans l'Éden, au chapitre 2. Donc il y a une reprise de la création de l'homme, mais sous un angle un peu différent. Au chapitre 3, à partir du chapitre 3, nous sommes confrontés avec le récit de la chute et les conséquences de la chute. Donc à partir du chapitre 3 jusqu'au chapitre 6, au verset 12, donc la désobéissance d'Adam, l'expulsion d'Adam du jardin de l'Éden, le meurtre de Caïn, alors donc ça c'est dans le chapitre 3, le meurtre de Caïn et la postérité et sa postérité, chapitre 4, la postérité de Seth et les patriarches d'Adam à Noé, chapitre 5, la corruption de l'humanité, au chapitre 6, dans les 12 premiers versets. La troisième partie, donc le jugement de Dieu sur l'humanité. Donc au chapitre 6, versets 13 à 8, 14, avec la mention de l'arche de Noé au chapitre 6, du déluge au chapitre 7, de la délivrance de Noé et de sa famille au chapitre 8. Quatrième section. Alors oui, là, j'ai oublié de vous dire que j'ai considéré là la partie de la Genèse qui concerne l'histoire des origines, donc les 11 premiers chapitres, qui vont de la création de l'ordre de l'univers à l'être humain. Donc là, c'est la quatrième section, le nouveau départ de l'humanité, à partir du chapitre 8, verset 15, jusqu'à 11, 32. L'alliance, alors là, c'est très important, l'alliance de Dieu avec Noé, au chapitre 8, 15, à 9, 17, la postérité de Noé au chapitre 9, verset 18 à 11, 32, le récit de la tour de Babel au chapitre 11, verset 1 à 9, et la postérité de Sem jusqu'à Abraham, au chapitre 11, 10, 32. Voilà, donc on va insister sur, dans le prochain cours, sur, on va revenir sur cette première section du livre de la Genèse, donc qui raconte l'histoire des origines avec les 11 premiers chapitres, parce que c'est quelque chose de tout à fait décisif. Et nous reviendrons justement sur cette succession de livres des générations que l'on peut remarquer, de livres des générations avec la nomination de ces générations et des récits qui l'accompagnent, et que l'on peut remarquer dans le livre de la Genèse, qui scande le livre de la Genèse tout au long de son déroulement. Bon, on va quand même aller un petit peu plus loin, j'ai encore un peu de temps. Parlons même sommairement, mais parlons dès maintenant du récit de la création, chapitres 1 et 2. Alors bon, il faut se souvenir, il faut bien avoir en tête que ce récit de la création, il n'a pas de prétention scientifique. Je dis cela, évidemment, ça saute aux yeux, mais je dis cela aussi pour montrer la vanité des tentatives de concordisme. Il y a des modèles scientifiques de l'origine de l'univers. Bon, c'est très bien, ça c'est le rôle de la science d'explorer ces choses-là, et c'est très utile, et ça nous renseigne sur l'origine de l'univers, mais ces modèles peuvent évoluer, peuvent changer. Le récit de la Genèse, il part du point de vue de Dieu, donc il n'a pas une prétention scientifique. Et les deux plans, d'ailleurs, ne s'excluent pas. Reportez-vous aux leçons que donne le père Rezvan, puisque il a tout un enseignement sur la thématique de science et théologie. Reportez-vous à ce qu'il dit sur ces sujets-là. Mais pour le moment, retenons qu'il n'y a pas d'opposition. Ce sont des discours qui n'ont pas les mêmes visées. Et c'est pour ça que toutes les tentatives de concordisme sont hautement à prendre avec des pincettes, quand elles ne sont pas purement et simplement suspectes. Le récit part de Dieu. Part de Dieu, qui est un Dieu unique, qui est au commencement de la création, qui crée par sa parole, et où son esprit est présent, son souffle, ce souffle qui donne la vie, qui est vivificateur, qui nous dit que il crée par sa parole et que son souffle planait à la surface des eaux. Donc, déjà, nous avons une première perception de celui qui crée, de celui qui est au-delà de sa création, qui est au-delà même de tout, qui est éternel, qui est sans commencement, sans fin. Toute l'Écriture l'atteste, hein, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, en passant par les psaumes. Autrement dit, nous sommes d'entrée de jeu renseignés sur le fait que tout ce qui vient du néant à l'existence procède de la parole toute-puissante de Dieu qui crée. Parce que ce Dieu qui crée par sa parole, il suffit qu'il dise que telle chose soit et elle est. C'est lui qui fait venir, qui fait tout venir du néant à l'être. Et nous savons, par une parole qui fait écho à celle-ci dans le prologue de Jean, quand il parle du Verbe qui a tout créé, et tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. Donc voilà. C'est Dieu créé par son Verbe, par sa parole toute puissante. Il est fait mention, dès les premiers versets de la Genèse, de cette expression « Dieu dit », qui est plusieurs fois répétée. Hein ? Dieu dit. Donc c'est par sa parole que tout vient à l'existence. Et dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, cela nous est également réaffirmé. Tout s'est accompli comme Dieu l'a dit. Car pourquoi ? Parce que en Dieu, il n'y a pas de distance entre sa parole et sa réalisation, sa traduction en acte. Les deux sont dans l'immédiateté. Dieu parle et cela est. Contrairement à la parole de l'homme, bien sûr. Donc, d'entrée de jeu, il nous est affirmé l'unicité de Dieu, sa toute-puissance et le fait qu'il est tout autre, puisqu'il est créateur. il fait venir la création à la vie. Et bien sûr, contrairement au culte païen qui entoure Israël, il y a là l'affirmation d'une discontinuité radicale entre l'essence divine, sous-entendu bien sûr, c'est pas énoncé comme tel, mais c'est signifié, une discontinuité radicale entre l'essence divine et celle de la création. Il n'y a pas de continuum entre les deux, parce que le Créateur est transcendant à sa création. Il est tout-puissant et il n'y a aucune limite à sa puissance. Le récit donc est très cohérent. Il n'y a pas une parole inutile, il n'y a pas une parole en trop. Le récit est d'une extrême concision, que l'on remarquera également dans le récit de la Nouvelle Genèse, dans le prologue qui ouvre ce récit de la Nouvelle Genèse, qui est l'Évangile de Jean, où dans les versets johanniques, il y a une extrême concision, où chaque mot a son importance, comme dans le récit de la première Genèse. Et ce récit fait apparaître qu'il y a un ordre dans la création. Pourquoi ? Eh bien, le prophète Jérémie nous le dit, celui qui fait la terre par sa puissance, qui établit le monde par sa sagesse, et qui, par son intelligence, déploie les cieux. Donc, celui qui fait cela, le Dieu qui crée, eh bien, il crée avec ordre, avec intelligence et avec sagesse. Il crée selon un plan. La création obéit à un dessein de Dieu en sa faveur. Parce que Dieu n'a pas besoin de sa création. Il se suffit à lui-même. Il n'a nul besoin de sa création, et pourtant il l'a fait venir à l'existence. De rien, il l'a fait venir à l'existence. De rien, c'est-à-dire ex nihilo. Avant, il n'y avait rien. Et Dieu fait venir à la vie, à l'existence, sa création en vue d'un dessein. En vue d'un dessein bien précis sur lequel, bien sûr, nous sommes abondamment renseignés par l'Écriture sainte. Dessein qui culmine dans l'incarnation du Verbe de Dieu, qui est à l'origine de la création, cette parole toute-puissante, et en vue d'un dessein qui va se dévoiler progressivement selon les lois de la pédagogie divine. Donc, tout est fait avec ordre et sagesse. Ensuite, ces premiers versets de la Genèse nous disent que tout ce que Dieu fait est bon. Et Dieu dit que cela était bon. Voilà. Dieu dit, et il crée, et il vit que cela est bon. Comme c'est dit au verset 10, et comme c'est répété. Pourquoi c'est bon ? Parce que en Dieu, il n'y a pas l'ombre de ténèbres. Tout est lumière en lui. Tout est lumière. Saint Jean dira dans sa première épître, Dieu est lumière et il n'y a pas ombre de ténèbres en lui. Et donc tout ce qu'il crée est bon. La création est bonne parce qu'elle est œuvre divine. La création, dans toutes ses dimensions, dans tout ce qu'elle renferme, elle est bonne parce qu'elle est le fruit de la création divine, elle est le fruit d'une décision divine, elle est le fruit d'un agir divin. Dieu est bon et parfait, nous disent Saint Matthieu et Saint Marc. Votre Père céleste est parfait. Nul n'est bon que Dieu seul. Donc, cette création à ses origines, elle est bonne. si elle est pervertie, si elle a été pervertie, c'est non pas du fait de Dieu, son créateur, mais du fait de l'homme qui a chuté, qui s'est coupé de la source de vie, qui a proclamé son autosuffisance, son autodivinisation, et qui a de ce fait introduit le désordre dans la création et l'hostilité entre les différents règnes du vivant. Une dernière remarque pour la leçon de ce jour, avant de continuer la fois prochaine. Nous voyons que le processus de création se fait sur une durée. Le livre de la Genèse nous dit sur 6 jours. Évidemment, ces 6 jours, nous ne savons pas quelle est leur durée. Ce n'est pas des journées de 24 heures, parce que l'Écriture nous dit, nous le savons tous, c'est pas la peine d'insister là-dessus, 1000 ans sont à tes yeux comme un jour pour l'homme. C'est une manière de dire que la durée dans le secret de Dieu et la durée pour les hommes, ce sont deux catégories différentes, et nous ne savons pas ce à quoi correspondent ces 6 jours. Mais ce qu'il faut remarquer, là pour ce qui nous concerne, c'est que le processus de création, c'est aussi un processus de séparation. C'est très important, ça. Il y a un processus de séparation, lumière, ténèbres, nuit, jour, terre, eau, soir, matin, etc. C'est-à-dire que il faut bien retenir ça. Il faut bien retenir ça. Et ce processus de séparation, eh bien, il se déroule progressivement sur ces périodes qui sont identifiées aux 6 jours. Le premier jour, la lumière. Le second, la fixation du firmament. Alors, il y a une progression, vous allez voir. La fixation du firmament. Le troisième jour, l'apparition de la terre ferme et de la vie minérale, des plantes. Le quatrième jour, l'apparition des luminaires, le soleil, la lune, les étoiles, qui sont considérés ici comme de simples luminaires, alors que dans les cultes païens, ils sont des divinités. Là, ce sont des luminaires. Hein ? Vous voyez, donc, il n'y a aucune vision panthéiste dans ce récit de la Genèse. Tout n'est pas divin. Tout est créature de Dieu, mais tout n'est pas divin. Le cinquième jour, la création des poissons et des oiseaux. Et le sixième jour, la création des animaux et de l'homme. L'homme qui est créé au sixième jour et qui est comme la couronne de cette création, comme nous le verrons la prochaine fois. Donc, je redirai d'abord que ce récit, il part du point de vue de Dieu. Il nous enseigne, il nous révèle la création en partant de Dieu. Que sa prétention, bien sûr, n'est pas scientifique. Que ce qui nous est dévoilé, c'est la première théophanie de Dieu. Parce que la création, c'est la première théophanie de Dieu. C'est la première manifestation de Dieu, et pas n'importe quelle manifestation, comme nous le verrons, parce que il y a à la fois l'emploi du singulier qui marque l'unicité de ce Dieu, Dieu dit, et plus tard, dans les versets qui parlent de la création de l'homme, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Donc, première théophanie de Dieu, Dieu se manifeste en faisant venir à l'existence, à partir de rien, la création, et Dieu se manifeste également mystérieusement en disant « faisons ». Et les pères n'ont pas manqué à ce pluriel « faisons », n'ont pas manqué de voir que d'une manière voilée, il y a une manifestation de la divine Trinité qui est là présente dans l'acte de création. Le Père, la parole Verbe et le souffle Esprit-Saint. Voilà, nous poursuivrons la prochaine fois. Merci de votre attention.